Bonjour et bienvenue dans Questions politiques. Merci d'être au rendez-vous du dimanche de France Inter, du journal Le Monde et de France Info. Merci infiniment pour votre fidélité. Merci d'être aussi nombreux à nous regarder tous les dimanches. Notre invité, il nous dira ce qu'il pense, que retiendra plus tard un collégien, un lycéen de 2020 devant les images de ces vidéos devenues virales sur les réseaux. Celles des violences policières, celles spectaculaires de mobilier urbain incendié pendant des manifs par exemple. Des violences de nature de degrés très différent mais devenu presque banal aujourd'hui. Alors comment faire pour que l'école reste un sanctuaire, surtout quand tant d'élèves doutent de leur avenir et que le bac se profile, quand tant d'enseignants aussi exercent leur métier dans des conditions toujours plus difficiles. Lui vient de publier « Quelle école voulons-nous ? » avec le sociologue Edgar Morin. Le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer, est donc l'invité de Questions politiques aujourd'hui. Pour intervenir, l'application mobile France Inter et les réseaux avec le hashtag Question Poll.
France Inter, Questions politiques, Ali Badou.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Ali Badou.
Et bienvenue. Beaucoup de questions à vous poser et pour vous interroger, l'équipe de questions politiques, Nathalie Saint-Cric de France Télévisions. Bonjour Nathalie.
Bonjour à tous.
Françoise Fressos du journal Le Monde. Bonjour Françoise.
Bonjour Ali, bonjour à tous.
Et Karine Bécard de France Inter qui a préparé votre portrait, monsieur le ministre. Bonjour Karine.
Salut tout le monde.
Nous le découvrirons ensemble ce portrait tout à l'heure. Si la politique était aussi une question de météorologie, Jean-Michel Blanquer, comment qualifieriez-vous le climat aujourd'hui en France ?
Variable. Évidemment, ça dépend aussi vers quoi on regarde, parce que parfois on peut être un peu frappé par tout ce que vous venez de décrire, parce qu'en effet il y a de la violence, il y a de la nervosité. Fort heureusement, ça n'est pas le cas dans tout le pays, ce n'est pas le cas de tout le monde non plus. Et je suis frappé d'ailleurs souvent quand on sort de Paris, quand on va dans différentes parties de la France, on voit que le calme existe et que les gens parfois s'étonnent de cette nervosité qui...
Mais il suffit d'aller sur les réseaux, monsieur le ministre, ou qu'on soit
les réseaux,
dans le pays.
Vous avez raison.
Pour s'apercevoir. Non,
mais vous
violence.
Avez raison de les évoquer. Heureusement, les réseaux ne sont pas la France. Si vous me permettez cette expression, les réseaux ne sont pas la France. Et c'est bien ça le drame de notre, et les réseaux ne sont pas le monde non plus. C'est bien le drame de notre époque. C'est que quand vous êtes raisonnable, quand vous êtes tolérant, quand vous acceptez le point de vue d'autrui, vous êtes moins sur les réseaux que quand vous êtes violent, intolérant, et que vous avez à tout prix envie de façon radicale de faire valoir votre point de vue. Et c'est tout le drame de notre époque, c'est de faire la loupe sur tout ce qui va mal et sur toutes les méchancetés.
On va en parler justement.
Monsieur Blanquer, quand on voit l'intrusion à la CFDT, Emmanuel Macron qui est exfiltré temporairement des Bouffes du Nord, quand on voit l'incendie à la Rotonde, quand on voit tout ce qui se passe, est-ce que vous considérez que c'est un épiphénomène de sortie de crise, c'est-à-dire en gros un bloc de gens qui se radicalisent un peu pour manifester leur colère, ou est-ce que vous considérez que c'est un symptôme beaucoup plus grave ?
Non, je pense que s'il y a des gens qui sont extrêmement radicalisés, qui ont une stratégie,
c'est radicalisés.
Bien sûr.
Vous employez le mot.
Ben évidemment, ces personnes sont radicalisées dans la violence, dans des actions de type antidémocratique. Il y a des ennemis de la démocratie, des ennemis de la République. Il y en a toujours eu d'ailleurs. Simplement, ils ont peut-être plus de chambres d'écho aujourd'hui. Et regardez comment leur technique marche, puisque nous sommes en train d'en parler. Regardez comment ils arrivent à faire la loupe, à créer l'événement d'une certaine façon.
Ce n'est pas neutre de voir un président de la République, monsieur le ministre, un président de la République chahuté dans un théâtre, obligé de sortir.
Chahuté par des gens venus de l'extérieur pour créer du chahut.
Oui, bien sûr,
malgré tout, monsieur Blanquer, qu'est-ce que ça dit simplement du climat social? Ça dit quand même quelque chose du climat social dans lequel on est aujourd'hui? Non, vraiment, ça dit rien du tout.
Regardez, comme, déjà, je fais un développement et vous m'interrompez. Ça dit quelque chose du climat social. C'est-à-dire qu'on ne peut, on ne s'écoute plus.
Nous
faisons tous partie du climat social. Est-ce que quand quelqu'un produit une violence, le fait de faire la loupe sur cette violence en disant ah ah, il y a un problème de climat social, c'est pas jouer le jeu de cette personne qui fait de la violence? Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il y a un bon climat. Mais je dis qu'il y a des gens qui veulent créer ce mauvais climat et que d'une certaine façon, nous jouons parfois le jeu de ce mauvais climat, tout simplement en insistant là-dessus et en ne désignant pas les vrais coupables de ces problèmes, c'est-à-dire les gens qui créent de la radicalité dans la société. Encore une fois, faire ce qu'ils ont fait dans ce théâtre est absolument lamentable.
Dans quelle mesure il y a une responsabilité de la part du gouvernement? Est-ce que vous la mesurez? Est-ce que vous l'acceptez?
Attendez, le fait que le président aille au théâtre et soit interrompu, il n'a pas de responsabilité du président dans le fait que des gens viennent créer des violences là où ils se trouvent. C'est juste inadmissible, point à la ligne. Ensuite, sur le fait qu'on soit pas d'accord avec le président, que tout ne soit pas parfait, ça se discute, ça s'appelle la démocratie. Il y a d'ailleurs un parlement pour cela, et il y a les médias, la liberté de manifester dans la paix, sans violence. Tout ça, ça existe en France. C'est d'ailleurs très précieux et les gens dont nous parlons cherchent à casser ça aussi. Donc c'est la République et la démocratie qui sont en cause quand ils font cela.
Françoise Fressoze.
La promesse de 2017, c'était quand même de réconcilier les Français et de leur redonner une sorte d'optimisme. Ce qu'on va garder du quinquennat à l'heure actuelle, c'est quand même deux gros épisodes de tension, c'est-à-dire les gilets jaunes et puis la réforme des retraites et les occasions de violence que ça a donné. Est-ce que vous estimez que c'est, au fond, la méthode n'a pas été bonne ou c'est parce que c'est un état de la société qui fait qu'on ne peut pas faire maintenant de réformes qui entraînent tout le monde ?
Jean-Michel Blanquer.
Il faut évidemment avoir une perspective très globale de ces problèmes. D'abord, il y a un problème à l'échelle du monde. Les sociétés, de nombreuses sociétés sont en crise. Il y a 20 ans, nous pensions que la démocratie allait se généraliser. Aujourd'hui, vous avez des démocraties qui deviennent autre chose que des démocraties, ou des états démocratiques qui deviennent moins démocratiques. Il y a un phénomène mondial de recul de l'idée démocratique. C'est donc très grave. En France, Emmanuel Macron a été élu dans un contexte très particulier où la société était déjà en crise. Et si elle n'était pas déjà en crise, il n'aurait pas été élu. Et c'est justement, d'une certaine façon, il était minuit moins cinq, si vous me permettez l'expression. Et les forces constructives de ce pays ont porté Emmanuel Macron au pouvoir précisément pour réussir les réformes indispensables qui auraient dû être faites bien avant Emmanuel Macron. Et aujourd'hui, nous sommes dans la situation un peu paradoxale d'avoir à nous retrousser les manches, à rattraper tout ce qui n'a pas été fait et à le faire dans un contexte, en effet, très difficile parce que oui, il y a de la pauvreté, oui, il y a des difficultés, oui, il y a des contrastes, notamment entre les métropoles et d'autres parties de la France. Donc tous les problèmes dont on parle sont bien réels. La plupart du temps, le gouvernement n'y est pour rien dans leurs racines réelles. Et au moment où on s'attaque à cela, bien justement, les forces qui ont intérêt à l'affaiblissement de la démocratie nous attaquent. Donc oui, le climat est difficile, mais le paradoxe de ce gouvernement, qui ne fait pas tout parfaitement, hein, je suis prêt à discuter de chaque point, mais le paradoxe de ce gouvernement, c'est que s'attelant à ça, il est attaqué. Mais ne noircissons pas le tableau, il y a des résultats, il y a des premiers éléments. On crée de l'emploi en France aujourd'hui, de l'emploi industriel en particulier, ce qui est une excellente nouvelle. On reprend les choses à la base dans le domaine de l'éducation, j'en parlerai.
On va évidemment y venir. Mais vous disiez qu'il était minuit moins 5 quand le président de la République a été élu en 2017. Aujourd'hui, après 2 ans et demi, 3 ans de mandat, vous diriez qu'il est quelle heure ?
Eh ben, je dirais qu'il est 23h30, c'est-à-dire qu'il y a la capacité, il est à un moment donné nécessaire de reprendre les choses en main et en effet d'arrêter cette espèce de pente fatale que le monde a pu prendre sur certains points.
Un peu moins imminente qu'auparavant.
Oui, parce que des choses ont été faites qui sont importantes et dont on doit parler aussi.
Est-ce que vous considérez, même si vous ne allez probablement pas me répondre, qu'il y a un facteur spécifique avec Emmanuel Macron ? On a l'impression que depuis, notamment avec ce qui s'est passé au Puy-en-Velay,
qui grésille autour de la table.
Quelque chose de spécifique, d'irrationnel ou pas, de rationnel ou pas, vis-à-vis d'Emmanuel Macron comme une forme de haine de classe et qui est quelque chose qui est un facteur aggravant dans l'ambiance actuelle.
Jean-Michel Blanquer.
Qu'il y ait des choses qui se focalisent sur le président de la République, c'est incontestable. C'est quelque chose que l'on a vu souvent sous la Ve République. C'est dû aussi aux institutions qui centralisent beaucoup les choses sur la figure du président, avec beaucoup d'affect, en positif et en négatif. Vous avez aussi des forts soutiens à Emmanuel Macron dans la population. Il y a encore quelques instants, je rencontrais des gens qui me disent « Dites au président à quel point on le soutient ». Et donc,
il clive.
Il clive. Je crois que nous sommes dans une société très clivante, et puis s'il clive, c'est aussi parfois pour de bonnes raisons, si vous me permettez l'expression, c'est-à-dire que parfois il met le doigt là où ça fait mal, et puis surtout il fait avancer la société. Ce serait beaucoup plus facile pour le président et pour nous tous le gouvernement, de ne pas avoir une réforme des retraites. On ferait comme d'autres ont fait avant nous, c'est-à-dire pousser la neige devant, attendre que les choses se passent, ne pas regarder les vraies inégalités pour ne pas les traiter vraiment à la racine. Toute cette abstention d'agir qui a caractérisé trop de gouvernements précédents, Emmanuel Macron a été élu contre ça. Il a été élu pour agir. Et agir, parfois, ça clive.
Jean-Michel Blanquer, vous nous dites, faites attention aux effets de loupe. Il faut regarder les choses avec du sang-froid et du recul. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, par exemple, cette semaine, lorsqu'au cours d'une manifestation devant le rectorat de Caen, on a vu des jets de manuels scolaires et un gréviste qui brûlait Fahrenheit 451 de Ray Bradbury comme un symbole. Symbole de quoi, justement ?
J'ai senti des choses profondes tout en gardant le calme des vieilles troupes, puisque nous devons avoir ce calme des vieilles troupes face à toutes les folies. C'est une folie. Brûler un livre, dès qu'on a un peu de culture, c'est évidemment quelque chose qui fait mal, par l'acte en lui-même et parce qu'il signifie celui-là. Sur le plan historique, a fortiori celui-ci. Vous avez raison de mentionner le titre, j'avoue que je ne le savais pas. Mais ça m'a fait très mal. Si cette personne est un professeur, elle n'est pas digne d'exercer ce métier. Et bien entendu qu'il y a des choses qu'on ne doit pas accepter, et d'ailleurs que je n'accepte pas. Que ce soit le fait de lancer des livres ou de les jeter, c'est une négation du métier, de la dignité du métier, de la noblesse du métier. Et donc moi, si vous voulez, je suis le défenseur des professeurs, je dis toujours je suis le ministre des professeurs. Des enseignants. Je dis que nous devons remettre le professeur au centre, mais certainement pas ce monsieur qui a brûlé un livre, qui est une honte pour le métier.
Il doit être sanctionné ?
Évidemment.
Est-ce que malgré tout, ça ne veut pas dire aussi tout ça, je ne parle pas que du fait dont on vient de parler, est-ce que vous n'avez pas trop vite, et quand je dis on, évidemment c'est le gouvernement, trop vite oublié ceux qui ne se sentent jamais écoutés? Est-ce qu'ils n'ont pas eu le droit à une parenthèse au moment des Gilets jaunes, et puis ça y est, tout ça est pas balayé, mais vous avez décidé d'avancer? Est-ce que vous êtes encore en capacité d'écouter tout le monde, finalement?
Oui, je pense que l'écoute est de façon indispensable, que ce soit avant les Gilets jaunes ou après les Gilets jaunes, qu'on n'écoute jamais suffisamment, et qu'il faut toujours en faire plus en la matière. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'actuellement on n'écoute pas. Prenez le sujet de l'écologie, vous avez la convention écologique qui a lieu en ce moment même, avec des Français qui ont été tirés au sort. C'est fait très sérieusement, cela se passe sur plusieurs mois, le président de la République s'y est rendu, on va en tirer des mesures concrètes, les proposer aux Français.
Oui, justement,
tout ça, c'est des mécanismes.
Lesquels, mais...
Oui, mais c'est justement des mécanismes.
La convention a commencé.
Regardez ce que je fais dans le domaine de l'éducation en ce moment même, après déjà des concertations qui ont eu lieu depuis le mois de septembre. Nous entamons maintenant 6 mois de concertation en matière de gestion des ressources humaines pour arriver à des résultats. Alors c'est vrai que...
Donc ceux qui ne se sentent pas écoutés, ils se trompent ?
Non, ça dépend de qui on parle et de quoi on parle, mais il faut être concret quand on dit ça. Il faut dire où est la non-écoute et qu'est-ce qu'on fait pour changer ça. Quand il n'y a pas d'écoute, c'est une mauvaise chose. Nous avons des... Moi, vous savez, à certains moments, je suis en train d'écouter tel secteur, de faire des rencontres. Et puis, dans le même temps, sur les réseaux sociaux et ailleurs, on dit, oui, il est vertical, il est autoritaire, il n'écoute personne. Et à force de le répéter, on finit par croire que c'est vrai. Mais je réfute totalement cette accusation. Je passe mon temps à recevoir des organisations, à écouter, à aller sur le terrain. Certainement, on peut faire mieux. Mais on voit bien qu'il y a des forces qui sont déchaînées pour essayer de faire croire parfois le contraire de la réalité.
Donc, les apparences comptent en politique, Jean-Michel Blanquer.
Comment ?
Vous le savez, les apparences comptent en politique. L'impression qu'on donne à l'opinion publique est importante. Encore un mot avant le portrait, à propos des violences policières. On a entendu mardi le président de la République à Pau parler aux gendarmes, aux policiers, en les rappelant à la déontologie, en parlant de comportements inacceptables. Et quand je parlais d'images virales, qu'ont vu des collégiens, qu'ont vu énormément de lycéens, de cette étudiante à sa fenêtre en train de fumer et qui se fait manifestement visé par un tir de grenade lacrymogène, lorsque vous voyez un CRS tirer au LBD à bout portant, un autre faire un croche-pied à une jeune femme et la faire tomber. Comment qualifier ceci ? Ce sont des violences policières, je sais que le gouvernement n'aime pas l'expression, mais surtout, d'après vous, que peut en retenir un élève d'aujourd'hui en France ?
Bien, il faut évidemment expliquer ça et montrer cela et expliquer ce que c'est que l'engrenage violence-réaction qui a été recherché par les secteurs les plus radicaux. On a une extrême gauche, encore une fois, qui est en train de devenir anti-républicaine et anti-démocratique.
Enfin, l'étudiante qui attaque... fumait à sa fenêtre,
non,
elle
est la victime collatérale de cette stratégie. Vous pensez bien que si on arrive à ces dérapages, puisqu'il s'agit de dérapages, bien entendu, mais si on arrive à ces dérapages, c'est parce que on a poussé à bout ce cycle violence-réaction. Les Français ne s'y trompent pas quand ils disent qu'ils sont à 75% derrière la police. C'est parce que ils savent bien que les policiers sont harcelés en permanence et que des petits groupuscules, les fameux black blocs, tout ça, les pousse à bout. Et alors après, on a les dérapages que vous dites, qui sont évidemment inacceptables et qui ne doivent pas être acceptés, mais qui sont quand on parle aux élèves et quand on fait de l'analyse d'information. Souvent, vous, les journalistes, vous venez dans les écoles à juste titre pour expliquer ça.
Vous expliquez
toujours qu'il ne faut pas s'arrêter juste sur une image, mais aussi sur l'explication de cette image, ce qui la précède, etc. Donc là, on a clairement quelque chose qui n'est pas acceptable en démocratie, bien sûr, et donc on doit en tirer les conséquences, c'est ce qu'a dit le président. Mais on doit aussi mettre en perspective et donc voir les vraies causes de ce que nous vivons, c'est-à-dire une stratégie de violence de certains secteurs ultra-minoritaires qui ont choisi ça, et on ne doit pas se laisser gagner par cela. D'abord, en y consacrant peut-être pas trop de temps dans le commentaire, si je puis me permettre, et deuxièmement, en
ça
étant...
Ça fait partie,
en,
malgré
bien sûr,
tout.
Oui, mais c'est ça leur stratégie aussi.
Mais quand on va dans les collèges, il y a effectivement à France Inter Interclasse, j'y suis allée, ce qui est très impressionnant, c'est ces élèves de 3e notamment, ces collégiens qui ont très fortement ce sentiment d'injustice au moment où il y a des violences politiques. Et finalement, c'est compliqué de remettre en perspective, comme vous venez de le dire. Oui, effectivement, c'est notre rôle et oui, on le fait. Mais en un an, eh ben, j'ai pas réussi à leur faire changer d'avis sur l'injustice, parce que c'est comme ça, en fait, qu'ils vivent ce sentiment-là.
L'éducation doit servir à mettre en perspective, et le sentiment d'injustice n'est pas un mauvais sentiment, parce qu'il y a toujours des injustices à combattre, donc ça ne me dérange pas plus que ça, mais par contre, je pense qu'il faut pas se tromper sur les causes. Et que parfois, on a dans notre société des gens qui attisent les braises, et qui parfois font oublier qu'il fait bon vivre en France aussi, hein, et que on a de la chance de vivre dans une belle république, belle démocratie. Elle n'est pas vaccinée contre tous les problèmes, et ceux qui l'attaquent en permanence sont en train de scier la branche sur laquelle on est tous assis. Vous savez, j'aime beaucoup La Fontaine, et je pense souvent à la poule aux œufs d'or en ce moment, et au fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont toujours envie de casser malheureusement ce qui permet à nous tous de vivre, et malgré tout vivre pas si mal, si on a une vision à la fois historique et géopolitique actuelle de ce qu'est notre pays.
Il est midi 20, le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, Jean-Michel Blanquer, est l'invité de Questions politiques.
France Inter, Ali Badou, Questions politiques.
Votre portrait, Jean-Michel Blanquer, signé Karine Bécard.
Durant vos deux premières années, tout s'est très bien passé. Ministre de l'Éducation plutôt apprécié, vous avez même eu une incroyable cote de popularité. Vous avez donc voulu avancer, vous avez cru pouvoir bousculer, et puis au printemps dernier, il y a quelque chose qui s'est enrayé. Pourtant, Jean-Michel Blanquer, vous êtes toujours le même, un grand expert de votre matière, qui a gravi méthodiquement tous les échelons du monde de l'éducation. François Fillon vous a nommé recteur de l'Académie de Guyane. Gilles de Robien vous a fait appeler pour vous avoir comme conseiller, sans oublier Xavier Darcos, qui vous a confié l'Académie de Créteil, et vous deviendrez le directeur général de l'enseignement scolaire auprès de Luc Chatel. Autrement dit, la droite vous a placé partout et vous connaissez tout. Ministre compétent donc, mais qui progressivement n'a plus supporté la critique, vous êtes apparu de plus en plus colérique à l'Assemblée, dans l'hémicycle. Exemple, ce 23 octobre 2018, une enseignante s'est fait braquer dans un lycée et l'opposition réclame des comptes au ministre de l'Éducation.
Et elle a réagi avant que vous ne sachiez quoi que ce soit. Les jeunes ont immédiatement... Une plainte a été déposée. Les jeunes ont eu une mise en examen. Est-ce que c'est possible de vous répondre ? Je pense en effet que si des élèves nous regardent, ils ne sont pas en train de prendre un bon exemple avec vous. Je le pense profondément, très profondément, parce que ce que vous avez dit est tout simplement faux.
Vous avez l'air, Jean-Michel Blanquer, viscéralement agacé par tous ces députés qui osent vous contester, qui osent vous malmener et qui surtout osent ne pas vous écouter. Vous avez raison, c'était essentiellement les députés des Républicains. Finalement, vous êtes resté un enseignant, professeur de droit public, un agrégé qui attend de ses étudiants d'être respectés. Donc croyez-vous vraiment être devenu un politique ? Il faut accepter le débat pour cela, les controverses, les invectives et même souvent la mauvaise foi. Or, on voit bien que vous n'aimez pas cela. Certes, vous avez des opinions et vous savez défendre scientifiquement vos convictions, mais cela ne veut pas dire politiquement que vous avez raison. Donc à 55 ans, Jean-Michel Blanquer, après votre itinéraire hautement technique et bien moins politique, saurez-vous, pour continuer à faire avancer votre ministère, convaincre de vos idées, oui, mais sans verticalement les imposer.
Réaction Jean-Michel Blanquer.
D'abord, merci pour ce portrait. Vous avez pris évidemment la fois où je me suis emporté le plus à l'Assemblée nationale.
Ah ben le plus, voilà.
Toujours
le
fait de nous. Vous savez, j'ai fait des dizaines, voire peut-être même des centaines maintenant d'interventions à l'Assemblée. C'est celle-ci où j'ai eu à me fâcher parce qu'il y avait du brouhaha. Alors en effet, il y a peut-être une dimension, une réaction de professeur dans ce que j'ai fait, mais je le regrette pas. Et d'ailleurs, ça venait effectivement des Républicains dont vous sous-entendiez auparavant que j'étais lié à eux du fait de mes nominations précédentes. Donc ça montre aussi peut-être un peu de mon indépendance. En tout cas, je pense que l'Assemblée nationale, c'est fait pour parler, comme son nom l'indique, c'est le Parlement, c'est fait aussi pour se respecter. Donc effectivement, vous savez, j'ai beaucoup étudié la politique, je ne suis pas complètement candide, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet.
On peut étudier la politique sans être impolitique.
Oui, mais pour moi, la politique, ce n'est pas forcément d'accepter la mauvaise foi. Vous savez, un jour, j'ai un député de l'autre opposition, du Parti Socialiste, qui a répondu un bobard, j'ai dit ça, dans sa circonscription. Il a fait en sorte que des parents fassent de la grève de l'école maternelle, c'est-à-dire n'en voient pas leurs enfants à l'école maternelle, pour protester contre la pseudo-suppression des écoles maternelles que j'aurais voulu. C'était faux. Il savait que c'était faux. Et il l'a fait. Et alors je suis allé le voir en dehors de l'hémicycle et je lui ai dit « Mais quand même, c'est pas normal. » des enfants de milieux défavorisés à cause de vous ne vont pas à l'école maternelle contre une, pour protester contre une menace qui n'existe pas. Et là, il m'a donné un petit coup dans le coude en disant c'est le jeu. Ben moi, je jouerai jamais ce jeu-là. Alors, je sais pas si c'est ne pas être politique, peut-être que j'ai tort, mais en tout cas, je ne jouerai jamais ce jeu-là. J'aime que l'on discute, j'aime la différence d'opinion, mais j'aime la bonne foi.
Vous êtes servi en ce moment, Jean-Michel Blanquer, quant à ce qui concerne la différence d'opinion. Françoise Fressoze.
Alors, avant des questions plus particulières, je voudrais quand même vous interroger sur le climat dans l'éducation nationale, parce que vous êtes arrivé quand même avec une grande ambition qui était de faire l'école de la confiance. Vous avez emballé les parents d'élèves au début, et puis là, on voit quand même que vous butez sur une éducation nationale qui est en réaction contre vous, qui n'adhère pas à vos réformes, qui bloque. Alors, il y a l'affaire des retraites, qui n'est pas de votre responsabilité directe, mais il y a aussi la réforme du bac. Comment expliquez-vous ce climat anti-Blanquer qui règne aujourd'hui à l'éducation nationale ?
Mais il n'y a pas un climat anti-Blanquer à l'éducation nationale. C'est, là encore, pardon, mais c'est les effets de loupe. Prenez la réforme du baccalauréat. D'abord, quand je l'ai présentée, et elle n'a pas énormément changé depuis, elle a recueilli l'adhésion. Donc c'est que chacun a bien compris les principes. Elle n'est pas là parce que ce serait mes idées que j'aurais eu un beau matin. C'est un énorme travail d'écoute et de consultation. Il y a eu 40 000 lycéens consultés. Il y a eu tout un travail fait par Pierre Mathieu auparavant. Ensuite, j'ai moi-même fait un gros travail de concertation. Tout ceci a duré des mois et même des années parce que ça s'échelonne de 2017 à 2021, il y a actuellement un comité de suivi. Ce comité de suivi, je l'écoute. On a d'ailleurs fait des inflexions pour écouter ce comité de suivi. Donc il y a tout un travail qui est fait. Et puis aujourd'hui, à chaque étape, pardon, il y a des secteurs radicaux qui contestent l'étape suivante en disant ça va être très désordonné. On a dit ça pour les emplois du temps en septembre. Et reprenez les émissions comme celle-ci, qui ont précédé, on disait « Ah là là, ça va encore être un désordre, vous avez les profs contre vous, etc. » Pas du tout. La rentrée s'est passée normalement.
Mais en l'occurrence, partons quand même de ce point précis pour répondre à l'angoisse des élèves de terminale, puisque c'est une réalité, ce qu'on vit de première, mais ceux qui vont passer le baccalauréat, nouvelle formule, le bac Blanquer, comme on l'appelle parfois, avec les E3C qui démarrent justement, les épreuves communes de contrôle continu. Hier, des épreuves du bac ont été annulées dans un lycée de Clermont-Ferrand, lycée Blaise Pascal. Il y a des enseignants qui appellent au boycott justement de ces nouvelles épreuves du baccalauréat. Qu'est-ce que vous leur répondez ? C'est manifestement qu'ils ne veulent pas de cette nouvelle formule-là peut-être ?
Non, attendez. L'exemple que vous donnez est la plus grande illustration de ce que je dis depuis le début de l'émission. On a l'Académie de Clermont-Ferrand, donc l'Auvergne, qui organise ces épreuves E3C, du contrôle continu. Ce contrôle continu, il est conçu pour les élèves, pour qu'ils puissent, étape par étape, approfondir et progresser.
Et ça comptera pour 30% de la note globale.
Ce qu'ils sont en train de faire, chacune des épreuves compte pour 1,7%. Donc ça reste peu stressant, je dirais, c'est un bon galop d'essai. Ces épreuves, elles ont commencé à être passées dans cette académie de manière tout à fait normale, tout à fait positive, sans problème. Le seul endroit où ça s'est mal passé, c'est l'endroit que vous citez. Et c'est un scandale. Parce que samedi matin, les élèves sont arrivés pour composer, il y avait leur professeur, il y avait tout ce qu'il fallait. Des éléments extérieurs sont venus, ont pratiqué de la violence, puisque c'est de l'intrusion, c'est donc très grave, et il y aura donc des poursuites pour ceux qui ont fait cela. Et ils ont empêché les élèves de composer. Autrement dit, une minorité radicale est en train d'essayer d'arriver à ce qui se passe là. C'est-à-dire, vous dites, ah, il y a un mauvais climat, les gens sont contre, etc. Mais pas tous, loin s'en faut. Et que pensent, à votre avis, les élèves qui ont vécu cette violence, alors qu'ils s'étaient préparés, de la part de personnes qui prétendent incarner quoi ? Que prétendent-ils incarner ? Le conservatisme, l'immobilisme, le fait qu'on ne change jamais rien. Et c'est comme ça qu'on cultive les inégalités. Donc si vous voulez, il n'y a pas d'unanimité ni pour ni contre ce que nous sommes en train de faire. Il y a les gens qui voient bien qu'on est en train d'essayer de rehausser le niveau. Et bien entendu, ça prend du temps.
Et ceux qui s'inquiètent de la fin du bac national.
Et ceux qui sont pour l'immobilisme et qui, il faut le dire, ont des intentions politiques. Parce que derrière cela, il y avait, dans cette intrusion dont vous parlez, il y avait même pas que des gens de l'éducation nationale. Il y avait des gilets jaunes, il y avait toutes sortes de personnes. Et puis l'extrême gauche qui aujourd'hui veut à tout prix créer de l'affrontement. Mais moi, encore une fois, j'ai le calme des vieilles troupes. Je ne cède pas à ce genre d'intimidation. Et l'interprétation que vous avez donnée n'est pas la bonne. L'interprétation qu'il faut donner, c'est qu'il y a des secteurs qui cherchent à créer le désordre et puis après invoquent le désordre pour dire que quelque chose ne va pas.
Alors, Nathalie Saint-Cricq,
qu'est-ce que vous répondez
François
à ceux qui concernent que c'est ni vraiment du contrôle continu, ni vraiment autre chose. À savoir qu'on ne tient pas compte du dossier des élèves et de ce qui a pu se passer dans l'année, qu'il peut y avoir une rupture d'égalité entre les élèves avec les sujets qui sont donnés en fonction des établissements scolaires dans lesquels on n'a pas forcément le même niveau. Rupture d'égalité également dans la correction et rupture d'égalité effectivement dans ceux qui connaissent à l'avance les sujets. Comment vous pouvez rassurer les élèves à qui, au plus, on leur dit qu'on notera avec bienveillance? Donc, si on note avec bienveillance, c'est que ça veut dire que même s'ils sont pas au niveau, on leur mettra des bonnes notes. Tout ça, c'est quand même pas d'une clarté excessive.
Bon. Alors, d'abord, Jean-Michel Blanquer. Il faut sans doute, et il faut me laisser deux minutes, expliquer
le système.
Je les prends. D'abord, pourquoi le contrôle continu? Nous l'avons dit dès 2017, nous voulons le contrôle continu précisément pour qu'il n'y ait pas du bachotage, pour qu'il n'y ait pas juste le stress de fin de parcours du bac de terminale et le côté parfois artificiel qu'il a eu tout au long des dernières années. Et donc le contrôle continu, c'est fait pour que les élèves travaillent en continu et puis qu'il y ait des étapes pour valider cela. Une fois qu'on a dit ça, il y a tout de suite eu la crainte de la part de certains qu'il y ait des inégalités d'un établissement à l'autre. Entre parenthèses, ces inégalités, elles existent déjà sous d'autres formes. Et en réalité, nous les compensons avec cette réforme du baccalauréat. Mais il y avait cette crainte des inégalités. Et puis, il y avait aussi la crainte de la complexité. Et donc, le système auquel on est arrivé est un équilibre entre l'impératif de simplicité, c'est-à-dire des épreuves qu'on doit passer de manière assez ordinaire, je dirais. Et c'est ce qu'on a fait. On fait des épreuves qui durent 2 heures maximum. Hein. Certaines durent 1 heure, d'autres 2 heures. C'est seulement 3 épreuves hein, pour les élèves en général, et c'est 4 pour ceux qui sont dans la série technologique. Donc ça reste raisonnable aussi. Donc l'impératif de simplicité, nous l'avons entendu, mais il y avait aussi l'impératif d'objectivité, qui supposait une banque nationale de sujets, le fait qu'on soit corrigé par un professeur autre que soi-même.
Ce sera pas le cas.
Si, c'est le cas, bien sûr.
Bah non.
Si, c'est
pas partout.
Bah si, partout.
À certains endroits, c'est des enseignants de l'élève qui corrigeront la copie
d'élèves. Non, tout le système est conçu pour cela. Il y a même une innovation technologique très intéressante, c'est la dématérialisation. Toutes les copies sont mises dans un scanner, et c'est le logiciel qui le dispatche, par définition, vers un professeur qui n'est pas le professeur de l'élève, qui corrige donc sur écran. Ce qui fait qu'une des innovations très intéressantes, c'est que chaque élève pourra lire ses corrections en ligne, ce qui n'a jamais existé auparavant, et ça fait partie des éléments de progrès. Donc, nous amenons les élèves, tout simplement, à s'entraîner étape par étape. Mais là, je suis sûr de moi dans ce que je vous réponds.
Ah, mais moi aussi, parce que...
Mais en l'occurrence...
Non, il n'y a aucun doute là-dessus.
Au lycée Hélène Boucher à Paris...
Je vérifierai ce point, mais ça
n'hésitez doit être pas à vérifier, exception, parce que je vous assure que les enseignants ont annoncé aux élèves que c'était eux qui allaient corriger leur copie.
On vérifiera ce point, et je vous donne une clause de rendez-vous là-dessus, mais c'est normalement, c'est même un logiciel qui fait que c'est distribué à d'autres enseignants.
Donc, et la réponse sera sur le site
de... Vous savez, il se dit beaucoup de choses parfois dans les établissements qui ne sont pas forcément exactes. Il faut voir ce qu'il en est.
Les épreuves du contrôle continu ont lieu demain. Donc vous dites, je ne céderai pas la pression. Ça veut dire que, aux parents d'élèves, vous dites partout les épreuves vont se dérouler, et comment vous allez assurer le fait qu'elles se dérouleront alors qu'il y a quand même des pressions?
Jean-Michel Blanquer.
Ce que je vous réponds d'abord, c'est qu'elles ont commencé à se dérouler. En réalité, elles s'étalent sur de nombreux jours, et depuis plus d'une semaine, ça a commencé dans certaines académies, dans le calme le plus total. À partir du moment où il n'y a personne pour perturber, eh bien, il n'y aura pas de perturbation. Autrement dit, il y a beaucoup de pompiers pyromanes, il y a des gens qui disent « Ouh là là, ça ne va pas, mauvais climat », mais c'est eux qui provoquent les perturbations. Donc, c'est en quelque sorte des gens qui, quand ils voient que les choses vont bien se passer, veulent que ça se passe mal. Si ces gens-là n'interviennent pas pour empêcher les épreuves se passeront bien. Les choses ont été préparées, y compris sur le plan technique, et c'est au contraire une innovation extrêmement intéressante. Donc ça va se passer très bien dans l'immense majorité des cas. Il risque d'y avoir telle ou telle perturbation. Dans ce cas-là, on fera repasser, mais je pense que ce sera très très limité, parce que quand même, les professeurs dans chaque établissement ont comme premier souci l'intérêt de leurs élèves, et c'est quand même une très mauvaise chose qu'on puisse savoir ce qui s'est passé au lycée Blaise Pascal de Clermont-Ferrand pour d'autres élèves. Et encore une fois, chacun doit comprendre le sens de tout ça. Toutes ces épreuves, elles n'ont pas lieu pour rien. Elles sont faites pour rehausser le niveau de tous les élèves, qui cette année, d'ailleurs, les élèves de première, en général, sont heureux d'avoir pu choisir beaucoup plus leur cursus que ça n'était le cas de leur devancier, puisque, comme vous le savez, ils ont pu se choisir 3 enseignements de spécialité, qui a donc que l'esprit de cette réforme, c'est aussi un esprit de liberté et un esprit d'évolution progressive et d'approfondissement plus grand. Donc ce sont des choses qui ont un sens, elles sont pas là parce que le gouvernement a je ne sais quelle intention mauvaise. Le but, encore une fois, c'est l'avenir des élèves, le fait qu'en préparant le baccalauréat, ils préparent des compétences qui leur seront utiles après le baccalauréat. Par exemple, tout récemment, on a commencé à préciser ce que serait le fameux oral de fin de baccalauréat. Tout ça, c'est fait pour que le lycée les prépare bien à leur avenir, tout simplement. Et donc les gens qui perturbent sont des gens qui vraiment ne font pas du bien aux élèves, élèves.
Ce sont parfois des enseignants qui aiment leur métier, Jean-Michel Blanquer.
On peut aimer son métier et pas perturber les choses. Et 99,9% des enseignants sont d'accord avec ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, ce qui compte d'abord et avant tout, c'est l'intérêt des élèves. Ensuite, la deuxième chose qui est importante de dire, c'est que les élèves auront, au long des temps qui viennent, des éléments de préparation pour les prochains contrôle continu, c'est vrai aussi pour la préparation en ligne, on l'a proposé par exemple en maths. Donc il y a toute une série de modernisations qui sont très intéressantes à la faveur de cette réforme, et beaucoup en profitent. J'invite chacun à regarder tous les endroits où on vit avec bonheur cette réforme, et les élèves de première, encore une fois, sont bien conscients qu'ils ont eu beaucoup plus de choix que leurs prédécesseurs.
Je ne sais pas si vous avez entendu le reportage Interception sur France Inter, il était question du malaise des enseignants, et c'est vrai qu'il y a une crise de vocation aujourd'hui, le métier est très difficile à exercer, on sait qu'il est mal rémunéré comparé aux autres pays de l'OCDE, et on sait aussi qu'il y a aujourd'hui une véritable baisse des vocations, beaucoup moins de candidats au CAPES, beaucoup moins de candidats à l'agrégation. Comment inverser la tendance ? Est-ce que vous avez les moyens, malgré la revalorisation promise du salaire des profs, est-ce que vous avez les moyens de redonner le sens de cette vocation ?
C'est un sujet fondamental. Et de nouveau, sur une telle question, il faut commencer par la mise en perspective, je dirais, mondiale et historique. La première chose, c'est que la crise des vocations de professeurs, c'est un sujet qu'on voit dans presque tous les pays du monde. Et ça, c'est évidemment une mauvaise chose. On doit donc traiter ce sujet à la racine, comme vous venez un peu de commencer à le faire, et comme on essaye de le faire avec Edgar Morin dans le livre que vous avez cité, c'est-à-dire en réfléchissant au sens de ce métier. Moi, je suis optimiste sur ce métier, parce que je considère qu'on est en train de changer de civilisation, qu'on est en train de rentrer dans une civilisation ultra-technologique, et que dans cette civilisation ultra-technologique, on a besoin de plus en plus d'humanité. On a besoin donc du professeur comme illustration de la réussite du duo entre l'homme et la machine, où c'est l'homme, l'être humain, qui maîtrise l'avenir, et de donner aux enfants cette figure d'être humain. C'est très important pour ça d'être très attentif, en particulier à l'école primaire, c'est-à-dire au moment où l'enfant se déploie et va avoir une figure du savoir et une figure de bienveillance au travers du professeur. C'est pour ça d'ailleurs qu'on crée encore des postes à l'école primaire, c'est pour ça qu'on revoit la formation dans un sens toujours plus approfondi, et c'est pour ça qu'en dédoublant les classes comme on l'a fait, en réalité on est sur cette idée d'avoir dans les temps à venir un taux d'encadrement toujours meilleur pour les enfants, notamment dans les premières années de la vie. Et puis, une fois qu'on a dit ça, oui, il faut être très concret sur les conditions de vie du professeur. Sa rémunération, ses conditions de vie concrètes, le bien-être au travail, le travail d'équipe, la santé, tous ces sujets qui sont majeurs. J'en suis parfaitement conscient, et je l'ai toujours dit, de ce point de vue-là, les professeurs et moi-même, et la plupart des organisations syndicales aussi, je crois, nous partageons le même diagnostic. Il faut donc maintenant agir. Or,
comment ?
Nous sommes maintenant, et c'est un point, mais je voudrais le souligner, si je n'ai qu'une chose à dire ce matin, c'est celle-là. Nous sommes au début d'un processus de 6 mois absolument fondamental par rapport à tous ces enjeux. C'est-à-dire que j'ai invité les organisations syndicales à un travail très approfondi, qui va se dérouler tout au long des prochains mois, pour cette redéfinition complète de notre manière de voir les ressources humaines au ministère de l'Éducation nationale.
Mais est-ce que vous pouvez le dessiner, ce professeur ? Il pourrait ressembler à quoi ? Le professeur de demain, il doit ressembler à quoi ?
Alors,
même si ça va se discuter encore un peu, mais...
D'abord, il doit être mieux payé qu'aujourd'hui.
Ouais, ça,
et donc, nous sommes engagés dans ce processus. Et donc, c'est la nation française qui va investir dans son enseignement, de sorte que les conséquences de ce que nous sommes en train de faire, c'est la montée du pourcentage de produit intérieur brut consacré à l'éducation. J'essaye de porter cette idée aussi à l'échelle européenne. Cette vision-là, normalement, doit tous nous unir. Ensuite, mieux payé, mieux recruter, mieux former. C'est pour ça qu'on a commencé le pré-recrutement, c'est-à-dire de proposer à des étudiants, dès qu'ils sont en deuxième année, de pouvoir être pré-recrutés, de passer 10 heures par semaine dans un établissement, et puis de se destiner à la fonction de professeur. J'annoncerai de nouvelles mesures dans la même direction, probablement dans les prochains temps. Toujours pour créer des vocations le plus en amont possible. Et puis après, il y a le bien-être au travail. Aujourd'hui, la situation est très hétérogène. Il y a du bien-être au travail. Je visite beaucoup d'établissements, vous savez, je vois beaucoup d'endroits où les choses se passent bien, où il y a du bonheur au travail. Puis d'autres où c'est très dur, où il peut y avoir de la violence, de la très grande difficulté sociale. Mmh. Et donc, on a besoin d'appui supplémentaire. Mais je pense qu'une des choses qui va caractériser les temps à venir, c'est aussi le travail d'équipe.
Mais donc il devra travailler plus longtemps, il aura moins de vacances, il devra être plus polyvalent et faire des tâches administratives.
Non, on va rendre plus visible le travail invisible du professeur. Aujourd'hui, on le sait bien, un professeur en réalité travaille autour de 40 heures par semaine en moyenne, parce qu'il y a la préparation de cours, la correction de copies. Donc le sujet, il n'est pas quantitatif, il est beaucoup plus qualitatif. Il est de rendre visible l'invisible, et puis d'avoir quelque chose de gagnant entre les professeurs et la nation, si vous voulez. Si on investit plus, c'est par exemple sur la formation continue. On sait que c'est un facteur majeur de réussite du système scolaire et que c'est quelque chose d'épanouissant pour les professeurs que d'avoir tous une bonne formation continue, intensive, de qualité, alimentée à la meilleure recherche mondiale. C'est tout ce travail-là que nous sommes en train de faire.
Mais vous répondez pas concrètement,
Karine.
En fait.
Ah si, c'est archi concret.
On va laisser circuler la parole parce que vous décrivez, c'est vrai, un rêve et un projet. On fera un bilan d'étape dans 6 mois. C'est vrai que les problèmes sont si colossaux qu'on se demande comment franchir ou gravir cette montagne.
Vous voyez comment dès qu'il y a un peu d'optimisme, ça inquiète.
Non, et pas
c'est,
du tout.
C'est assez étonnant. Non, mais
c'est normal.
Notre métier d'être français, quand même,
sceptique.
Excusez-moi, mais
non.
Attention.
Le scepticisme, Jean-Michel Blanquer, c'est l'examen approfondi de ce qui est en train de se passer.
Là, c'est extrêmement concret et les premiers éléments sont sur la table. J'ai déjà annoncé 500 millions pour cette vision l'année prochaine.
C'est une question.
Alors, je suis pas en train de chanter une chanson. Il y a quelque chose d'extrêmement concret qui se joue. Les organisations syndicales le savent parce qu'elles sont très professionnelles. Et d'ailleurs, certaines d'entre elles ont très bien compris ce que j'ai commencé à dire là-dessus. Ce qui fait qu'on a, ce que je dis à tout le monde, de manière vraiment, encore une fois, très confiante et avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de volontarisme, c'est qu'on est en situation de faire de fameuses transformations qu'on attend depuis très longtemps. Et donc, qui viendront à l'appui aussi des approfondissements que nous souhaitons pour nos élèves.
Beaucoup de questions encore à vous poser. Il nous reste une vingtaine de minutes. Françoise Fressoze.
Quand on regarde la somme que vous êtes prêt à mettre pour la revalorisation des enseignants, 10 milliards au bas mot d'ici 2037, on ne comprend pas pourquoi cette mesure qui n'a jamais été faite suscite une telle défiance. Pourquoi vous l'avez connectée au dossier des retraites au lieu au front de le lancer comme la reconnaissance que vous avez pris conscience de quelque chose de très grave, c'est-à-dire de la dévalorisation du métier d'enseignant. Là, maintenant, les syndicats disent, oui, mais c'est pour compenser, ça ne fera que compenser le fait qu'on va perdre au moment de la retraite. Pourquoi avoir absolument lié les deux dossiers, pas avoir engagé la revalo, par exemple, l'année dernière?
La revalo, comme on dit dans le langage de l'éducation nationale que connaît parfaitement Françoise, Jean-Michel Blanquer.
D'abord, c'est connecté au sujet des retraites, mais pas seulement. C'est ensuite, la question de la rémunération, je l'ai indiqué dès le début. Dès que je suis arrivé en 2017, j'ai dit, il y a un sujet de la rémunération, on va le travailler. Je rappelle, chacun le sait, que c'est plus d'1 million de personnes qui sont concernées, que donc pour les finances publiques, ça n'est pas neutre, et qu'on est on a la situation financière que l'on connaît, là aussi, c'est pas ce gouvernement qui...
Et donc vous chiffrez 10 milliards, comme François vient de dire?
Oui, en réalité, ça dépend comment on compte, parce que ça peut être plus, ça peut être moins, ça dépend le nombre d'années que l'on considère, ça dépend si on regarde la dimension cumulative, auquel cas c'est plus que ça, parce que ça veut dire qu'on met 500 millions de plus en base chaque année, si on poursuit le raisonnement, hein, mais c'est au cours des 6 mois qui viennent que l'on va l'affiner. Ce qui compte, c'est d'arriver à revaloriser les professeurs, notamment les débuts et les milieux de carrière, parce que c'est ça qui est le plus en retard. Et puis, donc, si vous regardez mes déclarations depuis 2 ans, regardez la constance de ce que j'ai dit sur le sujet. Et j'ai toujours dit que ça prendrait du temps, et donc la moitié du quinquennat, que de faire tout ce travail préparatoire. On a fait par exemple un observatoire des rémunérations. J'avais été ici même critiqué sur ces sujets parce qu'on disait c'était pour gagner du temps ou je ne sais quoi. Total, ce travail a été fait. Aujourd'hui, sert de base parce que c'est très technique comme sujet, c'est très complexe. Ça sert de base à ce travail de 6 mois qui commence maintenant. Mmh. Et en effet, la réforme des retraites était l'élément déclencheur. Et ça, le président de la République l'a dit dès le mois d'avril dernier, en disant on va faire l'augmentation de la rémunération des professeurs et c'est articulé à la réforme des retraites, et c'est normal au moment où justement la logique qui est derrière tout ça, c'est l'investissement dans l'avenir en réalité. Parce que augmenter les professeurs et faire en sorte que leurs conditions de travail soient meilleures, c'est évidemment investir dans l'avenir du pays.
Nathalie,
Françoise a parlé de 10 millions d'ici 2037.
10 milliards,
pardon, excusez-moi.
Tout ce chiffre en milliards à l'éducation nationale.
La revalo, comme elle dit, on a l'impression que ça va être tellement énorme et tellement long. Qu'est-ce que vous répondez aux enseignants qui peuvent se dire s'il y a une cohabitation, s'il y a un remaniement, s'il y a une autre majorité ou s'il y a un autre président, si tout ça s'arrête, si on retire la réforme, si on change tout, comment être sûr que ce soit sur du long terme et que ce ne soit pas remis en question par une autre majorité ou un autre président?
Jean-Michel Blanquer.
Alors d'abord, nous allons cranter beaucoup de choses. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai annoncé que les choses commençaient dès 2021, alors que les premiers petits effets de la réforme des retraites, c'est 2022. Et c'est pour ça aussi que l'éducation nationale est déjà mentionnée à l'article 1 du projet de loi sur les retraites, que la loi de programmation est annoncée dans cet article 1. Tout ça, c'est des choses que le Premier ministre a dit dès le 5 décembre, et qui, là aussi, on a vu beaucoup de scepticisme quand ça a été dit, c'est déjà en train de se concrétiser. Donc toutes ces choses que nous disons, à la fin deviennent des réalités. Donc c'est concret dès l'année budgétaire 2021, ça le sera évidemment dans l'année budgétaire 2022 que je préparerai. Il y a maintenant tout un travail à faire aussi pour créer des crans par la suite. Notamment, on organisera, et ça je l'ai annoncé aux organisations syndicales, une conférence annuelle dès 2021 sur la gestion des ressources humaines du ministère. Autrement dit, chaque année, on fera le point sur l'accomplissement de la loi de programmation.
Mais vos successeurs pourraient très bien décider de ne plus faire cette conférence annuelle.
Je souhaite bonne chance à celui qui, en 2023, quel qu'il soit, dirait « Ah, la conférence annuelle qui a déjà eu lieu deux fois et qui fait le point sur ce qui a été annoncé en 2020 comme grand progrès, comme grande vision pour la gestion des ressources humaines de l'éducation nationale, celui qui reviendrait en arrière sur un tel sujet aurait fort à faire.
Françoise Fressoz.
Vous êtes assez attaché, vous, aux équilibres budgétaires, en tout cas au fait que l'endettement de la France n'augmente pas trop. Est-ce que vous savez à peu près par quoi va être gagé au fil des années ces 10 milliards d'euros de revalorisation que vous voulez entamer ? Est-ce qu'il y a des économies dans d'autres secteurs ? Comment vous estimez que les finances publiques françaises peuvent assumer un tel effort ?
Vous savez, là aussi, le raisonnement, il doit être d'abord global pour ensuite être très concret. Il doit être d'abord global en regardant ce qu'un pays consacre comme pourcentage de sa production intérieure brute, de sa richesse, à un domaine donné. Dans le cadre de l'éducation, c'est autour de 6,7%, ça dépend comment on calcule. Rappelons, pour les retraites, c'est 14. Donc, j'assume totalement, sur un plan politique, sur un plan économique, le fait de plaider, et je le fais depuis assez longtemps, et je le fais même à une échelle européenne. Je l'ai fait récemment dans une réunion européenne entre ministre de l'économie et ministre de l'éducation, pour plaider pour un nouveau modèle économique. Et d'ailleurs, le président de la République le dit, quand il dit éducation et santé comme pilier du futur. Eh bien, ce modèle économique, c'est une société décarbonée, avec de nouvelles façons de produire la richesse, et avec un pourcentage plus important d'argent consacré à l'éducation. Mais consacrer des moyens à l'éducation, c'est un enjeu social, évident, mais c'est aussi un enjeu économique. Il est parfaitement démontré que ce que l'on dépense comme moyen, notamment d'ailleurs pendant les premières années de la vie, c'est autant qu'on n'aura pas à dépenser en dépenses curatives ultérieurement. Donc c'est un vrai calcul. Si vous prenez des pays comme Singapour ou d'autres qui sont en train de bien réussir sur le plan de l'éducation comme de l'économie, la base de leur réussite économique, c'est leur investissement en éducation. Évidemment, c'est une vision à long terme. Et ce que nous sommes en train de faire en ce moment même à l'école primaire pour lutter contre les inégalités aura un effet social déjà qui commence un peu à se voir, qui se verra beaucoup plus ultérieurement. Mais l'effet économique sera très fort aussi. Et donc, c'est un bon calcul.
Vous répondez pas vraiment à ma question. Vous dites finalement, c'est des dépenses tellement d'avenir que c'est pas la peine, on s'occupe pas des déficits et la règle des 3% s'en fiche. Non, mais qui va payer l'effort?
Après, vous savez, à l'échelle de l'État, il y a des économies qui sont faites sur une série de sujets. Vous les pointez suffisamment souvent pour maintenant vous rendre compte que ce travail d'équilibre qui est fait par le gouvernement, il porte ses fruits pour pouvoir investir dans l'éducation, notamment. Et c'est évidemment une des grandes priorités de ce gouvernement.
Autre simplement, enjeu, oui. Autre défi, Jean-Michel Blanquer, il y a la question du communautarisme, Nathalie
Saint-Cricq,
le communautarisme
à l'école. Une prise de position d'Emmanuel Macron sur le communautarisme, est-ce que ça veut dire que votre voix a été entendue et qu'elle a réussi à infléchir sa position? Et est-ce que vous considérez que maintenant c'est une urgence et que les choses s'aggravent?
Jean-Michel Blanquer.
Notamment dans votre secteur, c'est-à-dire l'école.
C'est comme sur d'autres sujets, il faut avoir un plein sang-froid sur ces questions, c'est-à-dire avoir d'abord un diagnostic juste sur ce qui se passe. Et là, trop de gens ont cherché à minimiser les choses.
Vous l'avez fait depuis le début, est-ce que lui, il a enfin compris ?
Non, mais lui aussi, je me souviens très bien de discussions avec Emmanuel Macron au moment de son élection, et peu de temps après son élection, où il a toujours pointé le danger de l'islamisme fondamentaliste de façon très forte. Il a toujours voulu distinguer, il a raison, la question de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation violente, d'une part, de la lutte contre le communautarisme, qui est un deuxième sujet, connecté bien sûr, mais différent. Il y a des gens qui sont communautaristes, il faut combattre ça, mais ils ne sont pas pour autant violents. Et puis en troisième
quand
lieu...
Quand on dit communautariste, autant dire musulman.
Non, vous avez certaines fois... Bah, bien entendu, c'est ça qui
ce dont vous parlez. Ce ne sont pas, par exemple...
Vous avez en partie raison.
Des militants de l'Occitanie, de l'indépendance corse...
Je vous invite à regarder certaines...
Ou des démocrates chrétiens.
Non, mais je vous invite à regarder l'évolution de certaines sectes évangélistes et autres dans certains... Donc le sujet, il n'est pas que là. Mais c'est vrai, on est dans une période où, oui, la religion qui produit de la radicalité inquiétante est l'islam, il faut bien le dire. Donc ça, c'est pas... faut pas se cacher derrière le petit doigt quand on dit ça. Mais par contre, ça nous renvoie avec des
vous et
principes.
Votre groupe qui parlez de liste communautaire ou de communautarisme, c'est vous qui choisissez d'employer ce
réalité.
Mot plutôt que
c'est
de
la
parler
réalité qui fait
d'islam
que
politique.
Oui, il y a de l'islam. Enfin, j'ai aucun. Alors, vous savez, s'il y a bien quelqu'un qui a aucun problème pour nommer les choses, c'est moi. Donc,
mais
si
est-ce qu'au sein du gouvernement, justement, il y a d'autres gens qui ont plus de problèmes
que moi. J'ai aucun problème pour dire ce que vous dites.
Et
c'est, mais c'est pas moi. C'est pas parce que je nomme le problème que je suis le problème. Je nomme le fait que oui, vous avez des listes communautaristes et que oui, de fait, elles sont, disons,
les
islamistes.
Là, on parle des élections municipales qui se profilent.
Oui, mais parce que vous m'avez interrompu quand je
répondais sur l'école.
Je répondais sur le fait que Emmanuel Macron distinguait entre la lutte contre contre le terrorisme d'une part, la lutte contre le communautarisme en second lieu, et puis le respect des principes de laïcité. Sur ces trois sujets, nous avons évidemment là aussi des grands retards à rattraper qui se sont accumulés depuis un certain nombre d'années. Pour ma part, vous le savez, je suis vraiment sur des principes de laïcité qui sont intangibles, qui sont absolument fondamentaux, qui sont la condition pour que chacun exerce sa liberté.
On a l'impression qu'il
et c'est d'ailleurs vrai pour les musulmans républicains de France, qui sont la majorité des musulmans.
On a l'impression que vous manquez de moyens, pas de moyens humains, c'est-à-dire qu'on entend parler d'écoles hors contrat qu'on ne peut pas fermer. On a l'impression, en lisant le JDD aujourd'hui, que vous êtes obligé de trouver des problèmes d'hygiène ou de trappe d'aération pour fermer des écoles qui sont des écoles radicalisées. Est-ce que vous avez ce qu'il vous faut et une prise de conscience au plus haut niveau de l'État pour pouvoir faire ce que vous devez?
Oui, et nous avons commencé à agir en la matière, parfois sans tambour ni trompette d'ailleurs, mais nous avons commencé à agir en la matière comme cela n'avait jamais été fait avant. D'abord, j'ai fait voter deux lois qui ont beaucoup d'importance en la matière. Vous avez la loi Gatel, donc proposée par la sénatrice Gatel, que j'ai totalement soutenue, qui me permet aujourd'hui d'empêcher des ouvertures d'écoles, ce qui n'était pas le cas auparavant, donc hors contrat, et j'en ai empêché plusieurs dizaines, notamment à l'occasion de la dernière rentrée. Donc ça, c'est totalement nouveau. Fermer est plus difficile, ça je vous l'accorde, mais nous le faisons aussi, et nous le faisons en lien très étroit avec les préfets, avec qui je parle de ça régulièrement. J'ai une cellule au ministère qui s'occupe de cela, donc nous sommes dans l'action. Vous avez des équipes laïcité dans chaque rectorat de France pour venir en appui des professeurs qui sont devant ce type de problème. Donc, et dans la loi pour l'école de la confiance, j'ai fait voter une disposition sur la lutte contre le prosélytisme aux abords des écoles.
Mais ça représente quoi en fait tout ça? C'est-à-dire que le communautarisme, par exemple, a déscolarisé combien d'élèves l'année dernière? Est-ce que c'est massif? Alors, est-ce que ça progresse? Est-ce que ça s'accentue? Est-ce que vous percevez
c'est,
tout ça?
C'est un phénomène, si vous voulez. C'est un phénomène qui, sociologiquement, s'est accentué depuis plusieurs années, depuis le début de la décennie. Et c'est un phénomène que nous sommes en train d'endiguer. Mais c'est vrai que nous arrivons à un moment où la vague est très forte. Donc, nous sommes en train de reprendre, en quelque sorte, de reprendre la main. Mais le phénomène de déscolarisation est très fort. Mais regardez,
combien
on l'a fait.
Pourquoi est-ce que j'ai fait scolaire.
Une des raisons. Regardez ce qui s'est passé quand j'ai fait voter dans cette même loi l'instruction obligatoire à 3 ans. J'avais plusieurs motivations. La première, c'était la valorisation de l'école maternelle. Mais l'une d'entre elles, c'était de permettre d'éviter la déscolarisation. Regardez le traitement ironique que j'ai subi, ou les critiques que j'ai subies sur ce sujet, lorsque j'ai dit qu'il y avait un problème avec la scolarisation des petites filles, mais c'est aussi le vrai de petits garçons, les soi-disant décodeurs qui vous expliquent que vous dites n'importe quoi, alors qu'en réalité, la France connaît ces réalités-là, et vous savez, il y a des professeurs de terrain qui savent que ce que je dis est la réalité.
Mais donc vous avez des inspecteurs qui vont sur place et
oui,
qui vont vérifier
sûr, bien
que...
Bien sûr, mais ce sont des choses dont je peux, dont je rencontre d'ailleurs tous les 3 mois dans des conférences de presse pour expliquer ce que nous avons fait, ce que nous ferons. Je ne dis donc pas que nous avons résolu tous les problèmes, loin s'en faut. On a un phénomène de société très ample, mais ça y est, nous sommes dans l'action sur ce sujet et sans aucune ambiguïté.
Françoise Fressoz.
Vous êtes ministre de l'Éducation nationale et vous avez l'air de tirer quand même un constat très alarmiste de la situation française. Quand vous dites montée du communautarisme, est-ce que vous dites, au fond, c'est limité à certains quartiers, certaines zones, ou est-ce que ça s'étend sur le territoire? Et pourquoi est-ce que vous êtes aussi inquiet?
Je suis vigilant, plus qu'inquiet. Là aussi, il faut rester lucide et avec du sang-froid, c'est-à-dire que faut ni minimiser ni exagérer. La situation, elle est souvent très concentrée sur certains endroits. Elle peut toucher parfois d'ailleurs des villes moyennes et des endroits auxquels on ne penserait pas forcément. Donc, je me déclarerai pas comme inquiet. Je me déclarerai comme extrêmement vigilant, ferme sur ces sujets. Et je considère que depuis 2 ans, nous sommes passés de la défensive à l'offensive, c'est-à-dire que aujourd'hui, mon message, notamment à chaque professeurs de France et à chaque personnel de l'éducation nationale, c'est vous n'êtes pas tout seul quand il y a des problèmes de ce genre, ne mettez aucun problème sous le tapis par ailleurs, et vous avez des équipes dans chaque rectorat qui sont là pour vous aider. Ça, l'élément de base. Alors après, je pourrais vous passer deux heures à vous décrire et la situation et les solutions, mais sachez que nous sommes clairement en action et qu'il n'y a aucun problème à mettre sous le tapis sur ce sujet.
Jean-Michel Blanquer, Marine Le Pen a officialisé sa candidature à l'élection présidentielle, ce qui était une sorte de secret de polichinelle. On a l'impression qu'on va se diriger vers 2022 pour encore un face-à-face Emmanuel Macron, Marine Le Pen. Est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que vous ne considérez pas que les Français en ont marre d'une espèce de vote tellement contraint, où finalement on n'a plus beaucoup de choix?
Oui, je pense que vous avez raison. Et d'abord, je la trouve bien pressée. Hein. On est au début de l'année 2020 et parler déjà de l'élection présidentielle, c'est quand même un signe qu'il y en a un peu que ça à faire, si j'ose dire. Hein. On a heureusement, nous, des choses beaucoup plus concrètes et beaucoup plus au service des Français à faire que de vouloir répéter cette pièce qui n'a en effet aucun intérêt.
Donc il faudrait que ça s'ouvre un peu le jeu, peut-être
Bah oui.
Quand vous parliez des oppositions en disant qu'elles soient canalisées, qu'il y ait des candidats, qu'il y ait un certain nombre, vous pensez que ça, on doit ouvrir le jeu?
Ah bah c'est.
Est-ce que vous le dites à votre ami François Baroin?
Non, mais je souhaite que la gauche de gouvernement et la droite de gouvernement soient plus fortes qu'elles ne sont aujourd'hui, bien entendu, c'est évident, mais qu'elles soient aussi plus constructives. Regardez l'extrait qu'on a eu tout à l'heure. On entend parfois des choses folles.
Dans votre portrait.
Donc ça dépend de la gauche du gouvernement et de la droite de gouvernement que de prendre plus de force. Mais je pense que c'est évidemment souhaitable pour un pays que d'avoir à la fois une grande force centrale comme la nôtre, comme La République En Marche, comme le MoDem, mais aussi des partis crédibles à gauche et à droite. Et c'est souhaitable démocratiquement plutôt que d'avoir une extrême droite qui est là en quelque sorte par défaut, dans une sorte de protestation permanente, et puis une extrême gauche de plus en plus inquiétante et finalement de moins en moins différente de l'extrême droite et qui en plus en ce moment est en train de légitimer la violence à bien des égards.
Françoise Fressoze.
Comment consolider d'ici la fin du quinquennat cette grande force centrale qui au fond a quand même des allures de plus en plus à droite? Est-ce que il faut changer un peu le cours de la fin du quinquennat, peut-être adoucir, peut-être essayer de rassembler davantage, ou vous estimez que votre mission, tous les membres du gouvernement, c'est de transformer la France, même si ça crée les crispations que l'on voit ces derniers mois?
Il faut évidemment permettre à la France d'être plus forte et plus juste, et c'est le mandat d'Emmanuel Macron. Je ne laisse pas dire que qu'il y ait une quelconque dérive ou tendance spécialement à droite. Regardez toute une série de choses qui aujourd'hui sont profondément sociales.
Mais l'électorat, on voit bien que les gains se font plutôt à droite que à gauche.
Regardiez le. Oui, mais ça tient aussi à la façon dont les oppositions se sont structurées, et la faiblesse de la gauche du gouvernement, plus personne ne sait ce que pense le Parti Socialiste sur ces sujets, fait qu'il y a eu une sorte de boulevard qui s'est ouvert pour l'extrême gauche.
Enfin, vous l'avez couvert au début, parce que Mélenchon a été quand même intronisé meilleur opposant au gouvernement, y compris par Édouard Philippe, dans une émission sur France 2.
Oui, peut-être. Le fait est que, pour ma part, je pointe le fait que la France insoumise a très souvent des discours qui n'ont rien à envier à l'extrême droite, qui sont des discours anti-républicains, très dangereux, très très ambigus, pour pas dire davantage, sur les enjeux de laïcité dont on a parlé tout à l'heure. Oui, sur la laïcité, c'est scandaleux de voir certaines formes d'expression. Je crois que de plus en plus, il faut être attentif au fait que, même je vous dirais que sur les enjeux de relation à la République et à l'usage de la violence, l'extrême gauche est au moins aussi inquiétante aujourd'hui, bien sûr.
Karine.
Très rapidement, redoutez-vous les résultats des élections municipales? Est-ce que vous avez peur de découvrir ce que pèse vraiment La République En Marche sur tout le territoire français?
Non, parce que d'abord c'est des élections locales, donc chaque élection est un cas particulier. On le voit très bien dès qu'on analyse chaque ville, on voit une situation très différente. La République En Marche part de zéro sur un tel sujet, donc par définition on ne peut que gagner un peu plus.
Au niveau national, le chiffre global va être faible quand même.
Oui, mais c'est même très intéressant par rapport à ce que disait Nathalie Saint-Cricq précédemment, c'est que vous verrez des alliances de La République En Marche aussi sur le terrain. Ça va davantage structurer finalement des possibilités d'agir sur le terrain avec La République En Marche, mais parfois en alliance avec des personnes raisonnables de gauche, des personnes raisonnables de droite.
Ça ne va pas donner le sentiment d'une cuisine politique à laquelle
non,
vous participez?
Non, je pense que ça va donner le sentiment d'un très grand pragmatisme avec La République En Marche comme qui de tout ce qui est pragmatique et républicain en France.
Françoise Fressoze, il reste 30 secondes, question-réponse.
Des manifestants ont prévu de défiler cet après-midi pour protester au fond contre les lois bioéthiques et notamment pour l'ouverture de la PMA. Est-ce que vous les comprenez, ou est-ce que vous dites au fond ce sont une frange de la population conservatrice qui ne comprend pas les évolutions de la société ?
Par définition, on a passé l'émission à dire qu'il fallait écouter tout le monde, donc je ne vais pas vous dire le contraire, mais la PMA, c'était clairement dans le programme d'Emmanuel Macron, c'est en train de s'accomplir, les gens ont le droit de protester, et sur les sujets d'éthique, je pense qu'on doit toujours être très respectueux de ce que les uns et les autres pensent. Mais maintenant, le programme du gouvernement est clair et ne déviera pas.
L'émission se termine. Merci Jean-Michel Blanquer d'avoir été notre invité. Quelle école voulons-nous avec Edgar Morin est publié chez Odile Jacob aux éditions Sciences Humaines. Merci à Alexandre Gilardi et à toute l'équipe technique. Et quant à nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine.